que c'est vraiment très utile de pouvoir faire le lien entre la pratique de la prospective, donc je vais vous dire un petit mot pour vous dire d'où je parle, et la manière dont vous travaillez dans ce séminaire sur la transition. Par rapport à ce que, au séminaire que vous annoncez et l'intensité que vous mettez sur la pratique, la mise en pratique de la transition, moi je vais vous parler depuis la pratique de la prospective, qui parfois est assez loin de la pratique de la transition, mais c'est, je trouve qu'il y a une collision intéressante et des choses que je vais vous raconter. La deuxième chose que je vais dire en préalable, c'est que je m'excuse auprès de Bernard Hubert, parce que je vais être obligé de vous quitter pour la fin de matinée et de revenir ensuite. Mais j'espère bien pouvoir contribuer à la discussion collective tout au long de la journée. La première chose que je suis désolé, vraiment c'était, je savais que les slides étaient mauvais, mais alors là c'est la caricature. Ce que je veux vous dire en quelques mots, c'est d'où je vous parle. Et donc ce sur quoi je travaille depuis, j'allais dire 15 ans, mais peut-être même un peu plus, c'est la pratique de la prospective pour les politiques d'environnement. Depuis plus de 15 ans, c'est dans une logique d'accompagner les changements dans nos sociétés ou dans les politiques sectorielles pour des objectifs environnementaux. Ça s'appelait pas forcément la transition il y a 15 ans, mais il y a des analogies possibles. Au-delà de cette pratique de la prospective que j'ai eue au ministère de l'écologie, où j'ai accompagné à l'échelle nationale comme Agriculture Environnement 2025, ou les démarches comme les scénarios pour l'estuaire de la Seine, plus territorial, j'ai été aussi dans une démarche de recherche impulsée par Laurent Mernet à AgroParisTech, c'est avec lui que j'ai fait ma thèse, sur la prospective pour le changement dans le domaine de la gestion de l'eau en Méditerranée. Comment est-ce qu'on peut se représenter différemment ce que veut dire la rareté future de l'eau? C'est là-dessus que j'ai travaillé initialement. Et ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui, c'est comment, dans cette équipe de recherche, parce qu'en sortie, il y a aussi d'autres doctorants, Benoît Lalouse, que certains d'entre vous connaissent, et là je travaille aujourd'hui avec Sarah Lombroso, qu'on encadrait avec Philippe Martin d'AgroParisTech, on prend une perspective stratégique sur la prospective, c'est-à-dire la prospective elle-même, le travailler, produire des futurs, c'est une activité stratégique pour obtenir du changement. Et je pense que ça peut avoir du sens de livrer cette perspective analytique sur la pratique de la prospective pour les discussions qu'on a aujourd'hui. Entre-temps, j'ai travaillé aussi, pour un exercice de prospective, j'ai croisé Bernard, qui s'appelait AgriMonde, qui là était un exercice sur la sécurité alimentaire mondiale, comment nourrir la planète en 2050, commandité par INRA et CIRAD. Et donc là, je pense qu'il y a aussi des choses qui vont m'inspirer sur la manière dont cette production prospective est entrée en interaction avec d'autres manières de construire les futurs, j'allais dire en interaction stratégique, voire en bataille, avec d'autres manières de construire les futurs. Et aujourd'hui, je travaille à l'IDRI, qui est l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. On est un think tank basé à Sciences Po. Et dans pas mal de cas, ce qu'on produit, c'est des scénarios de décarbonation profonde à l'échelle nationale, des scénarios de transformation profonde du secteur agricole uruguayen pour rester dans une logique de développement durable, donc vraiment proche de cette question de la transition. Et on essaye de mettre un peu de réflexivité dans notre pratique en se disant, est-ce qu'il y a une chance que produire un discours sur le futur ait une quelconque capacité à changer les rapports de force, l'état de nos systèmes sociotechniques quand ils sont verrouillés. Et donc c'est une des questions principales sur lesquelles je vais essayer d'intervenir, c'est-à-dire la prospective, c'est avant tout pour moi, ça peut englober tout ce qui est produire un discours sur le futur. Et derrière l'hypothèse que je poursuis depuis que je me suis spécialisé sur ces questions de prospective, qui est que ça vaut la peine de produire des discours sur l'avenir, c'est pas vain. Il y a quand même l'hypothèse très forte qu'une production d'ordre cognitif va avoir des effets en retour sur la reconfiguration des systèmes d'action concrets sur lesquels on travaille. Et même si ça fait 15 ans que je bosse là-dessus, je suis pas complètement convaincu encore de pouvoir pointer quels sont ces effets. Ce que je voulais signaler aussi, c'est que les éléments intéressants que je vais vous présenter sont évidemment, c'est pour ça que je citais Laurent Mermet au début, les doctorants avec qui j'ai travaillé, mais il y a aussi un travail vraiment de convergence que je trouve de plus en plus intéressant qui se fait entre les gens qui travaillent sur la prospective, les gens qui travaillent sur les promesses technoscientifiques, et donc en particulier, je trouve qu'il y a des connivences sur les travaux d'analyse que j'ai vus récemment produits par Pierre Bonnoy-Joly et Bruno Dorin, avec qui on avait travaillé sur AgriMonde. Et puis, une partie du boulot que je vais vous présenter, c'est issu d'un atelier d'écriture du département SAD de l'INRA, avec notamment Marc Barbier, donc, pour rendre justice à cette réflexion collective. Alors, la première chose que je voulais essayer de dire, c'est que, avant de parler de transition, c'est la prospective et un néologisme des années 50, qui est un peu concomitant d'éléments un peu analogue sur le scenario planning chez les anglo-saxons ou les future studies. Et donc depuis 60-70 ans, il y a eu un discours sur en quoi la prospective contribue au changement, pas à la transition mais au changement. Et ce caractère performatif de la prospective, je pense que ce que je vais essayer de vous raconter, c'est qu'est-ce que la prospective dit d'elle-même, qu'est-ce qu'elle est censée effectuer, et pourquoi je vous propose de changer un peu la perspective, ou en tout cas d'enrichir les perspectives possibles sur en quoi la production d'un discours contribue à changer quelque chose. Je vais essayer, sans caricaturer les auteurs, mais essayer de montrer une espèce de gradation. La première chose que je trouve le plus simple, effectivement ça ne veut pas dire simpliste, mais le plus simple à expliquer, c'est la prospective que proposent les ouvrages de Michel Godet, une prospective stratégique où en fait on parle à un décideur stratégique unique ou à un comité de direction d'une entreprise. Et donc une fois qu'on les a enrichis avec des visions de l'avenir, en fait quand ils décident, ça s'applique. Et donc le changement dans une organisation à ce moment-là s'opère directement. À mon avis par une espèce de fiction, enfin c'est utile aussi de temps en temps de penser la stratégie comme quelque chose qui se décide d'en haut. Dans le champ de la stratégie en sciences de gestion, c'est une école en particulier qui n'a pas tellement de vent en poupe, mais c'est une manière de se représenter ce que peut être le changement. De manière plus intéressante, il y a un auteur comme Jean-Philippe Boots qui a proposé de faire le lien entre la prospective et l'apprentissage organisationnel, et donc ces questions d'apprentissage étant très centrales aujourd'hui, j'essaie d'en dire un mot et de ne pas être trop maladroit parce que c'est pas forcément... cette perspective que je veux pousser. Ce que je veux souligner ici, c'est que l'idée, c'est qu'on est encore dans une logique de prospective au sein d'une organisation formelle, d'une entreprise, et que plutôt que de croire que le PDG décide et tout s'applique, l'idée, c'est qu'on a besoin au sein de l'organisation d'une boucle d'apprentissage sur les conséquences à long terme et les interactions entre des actions individuelles qu'on a à court terme entre elles et sur le long terme, et donc de pouvoir mettre des mots sur ce que veut dire construire une stratégie à long terme et permettre un apprentissage au-delà d'une logique d'essai-erreur avec la possibilité de partager et de remettre en cause la vision stratégique parce qu'on a les mots pour le dire, et puis des changements d'opérer, des changements cognitifs et comportementaux qui d'une certaine manière alignent les anticipations et aligne les stratégies individuelles des acteurs dans une organisation. C'est beaucoup plus cohérent avec la vision des stratégies comme des émergences qu'on a aujourd'hui en sciences de gestion sur qu'est-ce que c'est que la stratégie, qui est de dire finalement une entreprise, ça doit avoir un cadre formel, c'est pas beaucoup plus organisé qu'un territoire ou qu'une société, chacun prend des décisions assez individuelles de manière assez atomisée, et donc faire exister une stratégie d'organisation, c'est essayer de faire converger des atomes qui auraient sinon un mouvement assez brownien. Et donc la prospective permet d'aligner et d'avoir un apprentissage organisationnel distribué dans l'organisation. Il y a un auteur comme Kees van der Heijden de la Shell, qui est un des auteurs de prospective qui en parle le mieux, même si il a oscillé entre le secteur privé et une logique de réflexivité. Et donc, il appelle ça une conversation stratégique à laquelle tous les agents de l'entreprise doivent participer. Et donc, il faut essayer de piloter, faire converger les anticipations des uns et des autres. Pour moi, ça, c'est très analogue de ce que propose la prospective territoriale, qui est un champ très important de recherche sur la prospective. Ce que je veux souligner, c'est que, au-delà du premier modèle de Michel Godet, qui est un peu simple sur ce que c'est que l'action collective ou l'action organisée, la prospective territoriale telle qu'elle est présentée sur la conversation stratégique au sein d'une organisation, c'est l'idée d'une mobilisation, d'un alignement des représentations et des comportements, des stratégies pour réussir à faire que les actions individuelles aient des effets plus convergents que divergents. Je vais l'introduire juste après en citant un autre auteur, mais ce que je veux essayer pour essayer de faire passer mon message tout de suite. Ce qui me manque, moi, dans cette perspective-là, c'est qu'en fait, dans les territoires sur lesquels on travaille, dans les sociétés dans lesquelles on travaille, il y a des rapports de force, il y a des intérêts divergents qui font que on a beau essayer d'aligner les représentations, quand il y a des intérêts divergents et des visions différentes du futur, ça ne s'aligne pas forcément simplement. Et ces modèles-là, tels qu'ils sont présentés par ces auteurs, en tout cas, font l'hypothèse qu'il y a un alignement qui se fait assez naturellement avec des intérêts qu'on peut trouver de manière convergente. Et les asymétries de rapport de pouvoir, les asymétries d'accès à des ressources sont très peu soulignées. Et c'est pour ça que je voulais essayer de réhabiliter, de remettre sur le paquet la manière dont Bertrand de Jouvenel, qui est celui qui a, avec Gaston Berger, proposé dans les années 50 le néologisme prospective, d'essayer de rappeler comment, quelle était la vision du changement qu'il met dans son bouquin de 64 qui s'appelle « L'art de la conjecture ». Lui, ce qu'il propose, c'est un forum prospectif, et notamment pour les politiques et les projets publics. Parce que derrière sa vision de la prospective, c'est qu'il y a un impératif démocratique. On peut penser ce qu'on veut du... de l'itinéraire intellectuel de Jouvenel. Moi, je m'intéresse uniquement à son bouquin, qui est un bouquin de philosophie, un petit peu d'épistémologie du futur, assez bien conçu. C'est un auteur assez contesté pour son itinéraire, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais là, dans ce bouquin, ce qui nous met assez clairement comme thèse sur la table, c'est on a besoin de démocratiser la décision, parce qu'en fait, il y a de la prospective partout, souvent implicite, dans beaucoup de projets publics d'infrastructure, de projets de politique publique. Il y a en fait un discours sur l'avenir qui n'est pas dit et donc pas discutable. Je rejoins ici des éléments qui étaient dans l'introduction de l'atelier sur l'idée que souvent la prospective sert à rendre discutable des futurs. Et donc chez De Jouvenel, c'est vraiment ça qui est important, avec une vision qui pour moi n'est pas politiquement neutre. Il y a un engagement politique derrière sa vision qui est il faut révéler les prospectives qui sont souvent implicites, voire implicitées intentionnellement. Pas toujours intentionnellement, d'ailleurs le but n'est pas de savoir si c'est fait intentionnellement ou pas. Et donc sa proposition concrètement, c'est de créer une enceinte de discussion qui oblige à révéler les hypothèses qui sont faites sur l'avenir, qui assure une discussion épistémologiquement correcte et structurée, parce que tout son bouquin est sur l'idée de dire qu'on ne discute pas du futur comme on discute du passé. On a besoin de discuter du futur dans des termes qui sont la plausibilité, la cohérence, le possible, et pas le probable, le vrai. Et donc il introduit des éléments comme ça sur lesquels je ne vais pas rentrer en détail. Mais ce qu'il propose, c'est notamment qu'on ait, à l'échelle d'un pays comme la France, une enceinte, un forum prospectif qui permet de discuter correctement de ces choses-là et qui permet de faire émerger des scénarios alternatifs qui soient discutés équitablement et qui ne soient pas jetés à la poubelle parce que pas suffisamment experts, pas suffisamment bien formulés. Donc il y a derrière ça une proposition qui rejoint beaucoup de travaux sur la contre-expertise et la manière dont il faut aussi équiper les projets alternatifs, et en particulier sur le domaine. Et donc derrière De Jouvenel, pour moi, la prospective est avant tout une attitude critique qui reconnaît fondamentalement qu'il y a des asymétries dans la construction des futurs entre les différentes propositions sur le futur qui peuvent exister pour une société ou pour un territoire. Et en particulier, pour moi, ça rejoint beaucoup un des éléments qui est aussi dans les attendus de cet atelier sur nos possibles sociotechniques. C'est-à-dire que le point sur lequel je trouve intéressant de travailler, c'est de se dire, et qui était très peu présent dans la manière dont la prospective initialement propose un apprentissage organisationnel où tout le monde essaye d'aller dans le même sens, c'est qu'en fait, on fait face à des situations de verrouillage sociotechnique, des contextes d'action dans lesquels il y a des asymétries de pouvoir. Dans ce schéma de Rails and Shots sur la transition, que je ne vais pas réexpliquer en détail, mais qui est l'emblème de ce que tout le monde commence à connaître et qui est peut-être un peu daté maintenant sur la question des transitions passées et la manière dont elles sont en fait un passage d'un régime socio-technique verrouillé à un autre régime socio-technique qui a tendance à se verrouiller et à redevenir stable. Cet article a créé beaucoup de controverses parce qu'on voyait beaucoup les structures et pas beaucoup l'agency, pas beaucoup la capacité des acteurs, les rapports de pouvoir, mais Rails and Shots, qui sont des historiens, si je ne me trompe pas, en tout cas Rails, je crois, est historien, on dit si, ils sont là aussi, mais ils sont pas, on ne discute pas que des rapports de pouvoir et des résistances au changement. Ce que je veux essayer de souligner, c'est qu'en tout cas, il y a derrière la notion de verrouillage socio-technique à la fois des rapports de pouvoir et des asymétries de puissance, d'accès aux ressources, des asymétries de capacité à influencer sur le futur entre par exemple les niches et le régime socio-technique qui est en place, et c'est uniquement à la faveur de changements dans le paysage, dans le contexte général ou de déstabilisation du régime que tout à coup une des niches peut commencer à influencer le régime socio-technique en place. Et donc face à ce type de verrouillage socio-technique, la question que je me pose, c'est quel peut être l'impact de la prospective ou de l'énonciation d'un discours sur le futur pour essayer de faire changer quelque chose. Typiquement, c'est la question que j'ai posée à la doctorante Sarah Mombrosa, avec qui je travaille, qui est... Je ne suis pas sûr qu'elle soit très heureuse de la question que je lui ai posée en ce moment, parce que c'est difficile d'y répondre. On travaille sur le bassin Seine-Normandie, sur l'agriculture du bassin Seine-Normandie. La spécialisation et la simplification des paysages agricoles et des rotations dans le bassin est liée à un verrouillage socio-technique qui est très solide. On ne voit pas très bien comment on va pouvoir inciter les agriculteurs de ce bassin Seine-Normandie à faire autre chose que des rotations de plus en plus courtes sur blé-blé-colza ou blé-blé-blé, colza-blé-orge, mais ça c'est de plus en plus rare. Et on voit pas bien comment ça pourrait être compatible avec un bon état de la qualité des eaux en termes de pesticides et de nitrates. Diagnostic jusque-là partagé par un certain nombre d'agriculteurs, même de la FNSEA. Mais la question, c'est justement qu'il n'y a pas de. C'est à la fois pas forcément juste une pas uniquement une résistance de la FNSEA, mais aussi la disparition des silos pour faire autre chose que ces cultures principales, l'absence de filières, l'absence de recherche sur le poids protéagineux qui permettrait qu'il soit une culture plus intéressante. Et donc ce verrouillage est là. Il y a un collègue de Paris 6, Gilles Billen, qui a montré que si on voulait avoir la qualité de l'eau, il fallait que dans ce bassin, on passe à de l'agriculture biologique avec de la fertilisation organique super contrôlée, mais on ne voit pas bien le chemin qui mènerait entre aujourd'hui et l'image que Gilles Villene a proposée, qui a fait beaucoup de débats politiques dans le comité de bassin ici. Et la question que j'ai posée à Sarah Moreau, c'est en quoi il pourrait y avoir une chance que rediscuter du futur permette de faire bouger ce verrouillage sociotechnique et cette configuration d'acteurs. Et donc, je voulais quand même dire que dans la littérature sur les transitions s'inspirent de ce cadre des régimes sociotechniques et de leur verrouillage, il y a des gens qui s'intéressent à la question de comment est-ce qu'on pourrait faire advenir des transitions, alors que, à l'origine, le papier de Rails and Schott, c'est un papier historique, c'est-à-dire il ne dit pas comment on pourrait faire advenir, comment on pourrait effectuer une transition, et dit comment les transitions se sont passées. Et Marc Barbier et Pierre Nouvelle-Louis sont justement, je crois qu'ils ont un projet de recherche là-dessus, sur comment est-ce qu'on peut... est-ce qu'une transition est quelque chose qu'on peut piloter, qu'on peut gérer? Est-ce qu'on a des exemples passés d'une transition qu'on aurait pilotée ou gérée? Moi, ce dont je veux vous parler, c'est les gens qui vont encore un cran plus loin, et notamment des Hollandais comme Rothmans, qui disent voilà ce qu'il faut faire pour piloter la transition. Et ils disent qu'il faut faire des scénarios. Et donc ça me semblait intéressant de le mentionner pour essayer d'expliquer dans quel cadre ils disent ça. Donc je voulais bien souligner que c'est un sous-groupe de ce champ des réflexions sur les transitions sociotechniques qui travaille sur le transition management, sachant qu'un certain nombre d'autres auteurs seraient beaucoup plus réticents à dire que ça puisse avoir un quelconque sens de parler de transition management, parce qu'en fait ça se gère pas, on ne sait pas bien si ça se gère. Et donc il y a des exemples sur le transition management au sens de qu'est-ce qu'on peut avoir comme exemple passé d'une transition et comment elle aurait été pilotée ou gérée par un acteur ou des acteurs, sur la mobilité en Grande-Bretagne et en Suède, ou sur l'agroalimentaire flamand. Et donc notamment, je pense que ce que les auteurs disent en général, c'est qu'il faut s'occuper des niches qui sont donc des germes d'innovations différentes du régime sociotechnique en place, et que c'est en les mettant en lien, en les protégeant et en les nourrissant, qu'on peut leur donner suffisamment de force et de capacité à questionner ou à se reconfigurer avec le régime sociotechnique en place. Donc l'accent est mis beaucoup sur les niches. Et ce que disent les auteurs comme Lorbach ou Rothmans, c'est que il y a besoin de prospective et d'un forum prospectif. Donc, ce qu'ils expliquent, c'est que, en fait, on a une incertitude sur l'état final après la transition. Je crois que c'est important de faire le lien avec ce que vous disiez en introduction. On ne sait pas vraiment ce qui va être durable. Donc, on n'a pas. Là, en l'occurrence, Gilles Villene disait dans le bassin de la Seine, il faut une agriculture biologique avec fertilisation, etc. Donc, en général, je ne suis pas sûr que tout le monde soit d'accord avec Gilles. On ne sait pas quelle est la solution ou le régime sociotechnique après une transition qui permettrait d'être durable. Et on ne sait pas non plus quelle est la forme que pourra prendre le chemin de transition. Et donc ce que suggèrent ces gens du transition management, c'est qu'on a besoin en permanence d'essayer de se projeter dans l'avenir pour dire, tester, rentrer dans une discussion collective, qu'est-ce que serait un état durable du système après une transition. Et puis se mettre en discussion quels seraient les chemins pour y arriver, dans une logique qui est assez proche de ce que j'introduisais tout à l'heure sur la conversation stratégique, qui est, comme on n'aura jamais la solution définitive, il faut qu'on soit dans une logique de stratégie itérative, stratégie collective itérative, où on se projette dans l'avenir et on ajuste en permanence. En particulier, ce que je trouve intéressant de souligner ici, c'est que les acteurs avec qui on est censé faire cet exercice-là sont plutôt les acteurs des niches et pas les acteurs du régime dominant. Mais ce n'est pas souligné. Donc je ne veux pas, moi, avoir une obsession de dire qui sont les grands méchants et les gentils petits. Mais dans cette littérature, ce forum prospectif, il vise essentiellement les entrepreneurs alternatifs et la manière dont ils pourront ensemble essayer de se projeter dans un avenir qui marche. Et la manière dont on peut, ou on doit, ou on ne doit pas essayer de faire entrer dans le forum prospectif, dans ces discussions stratégiques, dans ce collectif qui construit une stratégie, des acteurs qui sont externes, qui sont plutôt du régime dominant, c'est une question qui n'est pas traitée. En gros, sur le territoire que je vous décris, est-ce qu'il faut faire de la prospective uniquement avec la FNCBAM, donc les coopératives assez alternatives qui montent des projets dans le territoire qui existe, dans le bassin Seine-Normandie, et dans quelle mesure et à quel moment on peut commencer à faire entrer les représentants officiels de la FNSEA, des chambres d'agriculture et du ministère de l'Agriculture dans la discussion. Est-ce que c'est utile ou pas? C'est des choses qui ne sont pas traitées dans cette perspective. Donc je vais essayer de... Ça, c'est un des exemples du cycle du Transition Management par Zandijker. Vous voyez que c'est beaucoup des propositions qui sont issues d'auteurs néerlandais. Ce n'est pas étonnant parce que la prospective qui propose est quelque chose qui est très pratiqué dans le pays depuis très longtemps, plus qu'en France, en termes de pratique du scénario planning. Et donc, ce qu'il propose, c'est de stimuler une réflexivité et de l'apprentissage social, mais essentiellement au sein du milieu pour soutenir l'émergence des niches. Où est-ce que j'avais vu ça? Excusez-moi, je cherche un endroit où c'était Tactical Approach en avant. J'avais vu, voilà, Developing Coalitions and Transition Agenda. Il y a bien quelque part la notion qu'il va falloir développer une coalition d'acteurs dans une logique de coalition pour le changement, mais on ne dit pas exactement comment est-ce que ça peut procéder. Donc ça, je trouve que c'est une proposition intéressante, juste pour